Il est 8h44 à Paris et à Kigali. Bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Tout de suite, la revue de presse africaine à la une vers une Pax Americana en RDC.
Donald Trump bombe le torse, s'exclame le site d'information congolais Objectif Info. C'est une victoire sans précédent, a en effet déclaré hier le président américain après la signature d'une déclaration de principe vendredi à Washington qui pose les bases d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda qui devrait être signé au plus tard en fin de semaine. Dans ce document publié par le département d'État américain, précise Objectif Info, les deux parties, congolaises et rwandaises, se sont engagées à respecter la souveraineté et les frontières établies, à soutenir l'intégration économique régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais, et à faciliter le retour des réfugiés et des déplacés internes. Commentaire du site congolais, on peut dire que le chef de file des Républicains a réussi en 3 mois ce que son prédécesseur Joe Biden n'a pas réussi à faire lors de ses 2 dernières années de mandat.
Ceux qui pensaient que les États-Unis de Donald Trump resteraient en dehors du conflit congolais en seront pour leurs frères relève pour sa part Afrique Arabia.
Oui, en difficulté sur Gaza, sur l'Ukraine et inaudible en Afrique de l'Ouest, le président américain a semblé chercher un succès diplomatique rapide en se penchant sur ce dossier congolais, pointe le site spécialisé sur la RDC. La visite de l'envoyé spécial de Donald Trump, Massad Boulos, à Kinshasa puis à Kigali a fini d'acter la position américaine qui n'est pas très éloignée finalement de celle de Joe Biden. Premier résultat, le M23 s'est retiré de la zone de Walikale, où se trouve la mine d'étain de Bissié, propriété d'Alphamine, entreprise minière à forts capitaux américains. Il faut dire, poursuit Afrique Arabia, que le futur accord de paix congolo-rwandais associe autour de la table les autorités et le secteur privé américain. Dans ce deal entre États, ce sera business contre territoire.
En effet, pointe l'observateur Palga à Ouagadougou, la signature de cette déclaration de principe intervient alors qu'un accord entre la RDC et les États-Unis sur les minerais stratégiques est en cours de négociation.
Un accord qui vise à permettre aux entreprises américaines d'accéder de manière privilégiée aux ressources minières de la RDC, telles que le cobalt, le coltan ou encore le lithium, en échange d'une assistance sécuritaire pour lutter contre les groupes armés. En s'impliquant ainsi, Donald Trump se fait d'abord le VRP des sociétés américaines pour le contrôle des minerais stratégiques congolais. Et dans ce deal, le Rwanda devrait aussi avoir sa dîme minière, mais relève l'observateur, si c'est le prix à payer pour le Congo pour qu'on lui fiche la paix, alors pourquoi pas?
Finalement, peut-être qu'enfin, les mines congolaises vont servir à quelque chose d'utile pour tout le monde, renchérit le Djeli en Guinée.
Oui, les richesses minières de la RDC sont donc au cœur de l'accord de paix qui pourrait être conclu prochainement entre Kinshasa et Kigali sous l'égide des États-Unis de Trump. Et en effet, c'est bien parce que le sous-sol congolais est riche en toutes sortes de minerais stratégiques que le président américain, plutôt porté sur la diplomatie transactionnelle, a consenti à s'intéresser enfin aux massacres et autres atrocités que les populations de l'Est de la RDC endurent depuis trop longtemps. Nord et Sud Kivu pourraient donc renouer avec la paix et la stabilité. Malheureusement, relève encore le Djeli, l'Afrique n'y aura joué aucun rôle ou presque, aucun processus n'a réussi à s'imposer, ni Luanda, ni Nairobi. Pourtant, entre les médiateurs et les facilitateurs, les acteurs africains n'ont pas manqué. C'est vrai, déplore enfin le pays au Burkina Faso. Washington semble engranger des points là où les organisations africaines sous-régionales, en l'occurrence la SADC, la Communauté de Développement d'Afrique Australe, et la CEAC, la Communauté des États d'Afrique de l'Est, ont échoué. Certes, ces deux instances ont permis, sous la médiation du président angolais João Lourenço, d'arracher quelques cessez-le-feu, mais ceux-ci n'ont jamais été respectés. Preuve s'il en est, conclut le pays, que l'Afrique peine toujours à trouver elle-même des solutions à ses propres problèmes.
Frédéric Couteau pour la revue de presse africaine. On vous retrouve dans une demi-heure, Frédéric. Vous avez lu pour nous à la presse internationale à la une cette question. La photo du face-à-face Trump-Zelensky au Vatican restera-t-elle dans l'histoire?
Eh bien, les commentateurs l'espéraient, mais les dernières déclarations de Trump ces dernières heures, nous le verrons, sèment toujours le doute.
On en reparle à 9h15 tout à l'heure. À tout à l'heure, Frédéric.
RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard.
Et l'actualité de ce lundi, c'est aussi le Canada qui vote pour des élections législatives anticipées. Les libéraux du Premier ministre Marc Carney sont bien positionnés face aux conservateurs emmenés par M. Poilievre. Un scrutin marqué par les récentes invectives du président américain Donald Trump à l'égard du voisin canadien et par la guerre commerciale lancée par Washington. On y revient dans le prochain journal. Donald Trump au pouvoir depuis 100 jours aux États-Unis. RFI dresse cette semaine un premier bilan bilan de ce deuxième mandat Trump. Aujourd'hui, 14 décrets emblématiques de Trump à la loupe. Rendez-vous sur RFI.fr. Bilan à suivre aussi dans notre dossier du 9h avec Nathanaël Vitran. Et selon les rebelles houthis du Yémen, des frappes américaines sur un centre de détention de migrants à Sada, ont été rapportées ce lundi. Le bilan est d'au moins 35 morts selon un média houthi. Le président russe Vladimir Poutine a remercié ce lundi le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour l'exploit, c'est le mot employé, des combattants nord-coréens qui ont lutté pour la Russie contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk, que Moscou affirme avoir entièrement libéré, ce que Kiev conteste. Éclairage sur ce sujet à suivre à 9h. Et puis en France, une vaste opération d'interpellation lancée ce lundi partout dans le pays par la police, et cela dans le cadre du dossier sur les récentes attaques contre des prisons dans le pays depuis le 13 avril. À ce stade, 22 interpellations ont eu lieu, affirme le parquet national antiterroriste. Elles ont été effectuées en région parisienne, à Marseille, dans le sud du pays, à Lyon, mais aussi à Bordeaux. RFI Matin, tout de suite, c'est notre invité Afrique, alors que le Timbuktu Institute publie ce lundi un rapport sur l'état de la menace djihadiste dans le Sahel et indique qu'après le nord et le centre du Mali, le JNIM menace à présent l'ouest du Mali et plus précisément la zone des trois frontières. Dans ce rapport également, le risque d'une infiltration dans l'est du Sénégal. Pour en parler, le directeur régional du Timbuktu Institute, Bakary Samb, est notre invité en ligne de Dakar. Il répond à Christophe Boboufier.
Bakary Samb, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que les djihadistes du JNIM sont dans une stratégie d'encerclement de Bamako ?
Oui, on le voit parce que le JNIM est dans une logique d'augmentation exponentielle des attaques violentes dans la région de Kay, qui n'est pas n'importe quelle région, qui est la région qui relie Bamako au Sénégal avec les routes d'approvisionnement le reliant au port de Dakar, qui est crucial dans l'économie et dans l'approvisionnement de Bamako et du Mali de manière générale. Et le JNIM a multiplié par 7 ses actions violentes entre 2021 et 2022 dans la région de Kay, en ciblant les forces de sécurité, en s'attaquant aux convois sur les axes routiers vers Bamako, et aussi aujourd'hui des attaques qui se multiplient aux environs de Bamako, sans oublier ce qui s'est passé en 2022 avec l'attaque spectaculaire dans le quart de Kati.
Et bien sûr en septembre 2024, l'attaque sur l'aéroport de Bamako. Y a-t-il eu depuis le début de l'année des attaques ou des embuscades meurtrières contre l'armée malienne dans la région de Kay, dans l'ouest du Mali ?
Il y a eu beaucoup d'escarmouches, ça et là, mais l'une des attaques les plus remarquées a été celle de Melgué, qui est à 35 km des frontières sénégalaises et de la ville de Bakel, le 8 février dernier, avec 3 morts, ce qui montre que le JNIM s'installe de plus en plus et, en plus du contrôle des axes routiers, essaye de désorganiser l'approvisionnement de Bamako, notamment dans des localités qui mènent sur cet axe de Kay, comme Kalajango, Moussafa et dans la forêt de Baoulé. Et le JNIM a revendiqué, comme vous le savez récemment, l'enlèvement du calife Tierno Adital en décembre 2024 à Nioro du Sahel, ce qui montre une volonté d'imposer aujourd'hui son autorité idéologique et de délégitimer non seulement les autorités politiques, mais aussi les chefs traditionnels.
Dans votre rapport, Bakary Samb, vous vous intéressez aussi aux tentatives d'infiltration des djihadistes du JNIM dans l'est du Sénégal, notamment autour de Bakel, mais là, ils s'opposent aux chefs religieux et à leur puissante confrérie. Est-ce que les djihadistes ne se heurtent pas dans ce cas à un mur religieux infranchissable ?
Justement, dans cette région de l'est du Sénégal, le principal élément de résilience idéologique, à savoir la présence des confréries soufis, est moindre. La spécificité socio-religieuse de l'est du Sénégal est que les confréries soufis, comme la Tijaniya et la Mouridia, qui sont considérées comme le principal élément de résilience idéologique par rapport à l'extrémisme, ne sont pas assez présentes dans cette zone. Cette zone est dominée par la présence d'un islam salafiste, de plus en plus renforcé par des réseaux de la migration avec des populations qui sont parties en Europe et qui ont eu des contacts avec les milieux salafistes et qui construisent justement des mosquées salafistes pour contrecarrer l'islam traditionnel et délégitimer les chefs religieux locaux par rapport justement à leur position peu claire sur l'esclavage par ascendance dans la région de Bakel précisément.
Et est-ce qu'au Sénégal, les djihadistes du JNIM essayent de jouer les castes dites inférieures contre les castes dites supérieures ?
Il est clair que le JNIM, à travers cette révolte de certaines castes dites inférieures, il est clair que les éléments du JNIM pourraient s'appuyer sur cet élément-là pour se présenter comme des protecteurs des communautés, mais aussi comme une forme de théologie de libération basée sur le salafisme, contrairement à l'islam traditionnel qui n'a pas été assez incisive dans sa condamnation du système de caste et de l'esclavage par ascendance.
Alors vous rappelez cette petite phrase du Premier ministre Ousmane Sonko, c'était lors de la campagne des législatives en novembre dernier. Il disait, vous connaissez la situation dans la sous-région, aujourd'hui la priorité c'est l'Est du Sénégal. Quelle est à vos yeux la stratégie que doit adopter l'État sénégalais pour faire face à la menace djihadiste?
Je pense que l'État sénégalais devrait renforcer davantage la présence des forces de sécurité dans les régions frontalières en construisant davantage de bases autour de la rivière de Falémé.
La rivière qui fait frontière entre le Mali et le Sénégal.
La rivière qui fait frontière, mais aussi en parlant aux populations, parce qu'on se rend compte que les populations ne sont pas conscientes de la présence de la menace. Il faudrait aussi, naturellement, renforcer la coopération transfrontalière avec le Mali et la Mauritanie, ce qui est entamé avec les visites récentes des élites militaires sénégalaises intermaliennes. Mais aussi, je crois que le gouvernement ne doit pas oublier les campagnes de sensibilisation auprès des chefs communautaires, parce que justement, cette jeunesse sénégalaise qui développe une forme de résilience par rapport aux groupes extrémistes est toujours dans cette double quête, la quête de sens que pourraient remplir les confréries soufis, mais il y a la quête de chance qui pourrait être des opportunités économiques, le développement de l'entrepreneuriat et le développement des politiques favorisant l'emploi des jeunes.
Bakary Samb, merci.
Le directeur régional du Timbuktu Institute, Bakary Samb, entretien avec Christophe Boisbouvier. Maman, on vous retrouve sur RFI comme chaque jour du lundi au jeudi. Ce matin, vous nous parlez de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. C'est aujourd'hui.
Oui, à chaque année mondiale prévue dans le calendrier des institutions internationales, le Gondwanais lambda s'assoit devant l'intitulé de cette journée là pour en faire l'exégèse, l'étude de texte. Cette journée mondiale d'aujourd'hui, consacrée à la santé et à la sécurité au travail, n'a pas fait exception. Elle est passée au scanner de la sagacité du Gondwanais lambda, ce citoyen souvent dupé, mais jamais dupe. Oui, santé et sécurité au travail, d'accord. Mais il faut d'abord avoir un travail. Il est là le problème. Et oui, vous voyez, hein, c'est ça la logique de notre ami Gondwanais lambda. Et elle s'arrête pas là. Il continue en disant que si tu as un travail au Gondwana, encore faudrait-il que ton salaire tombe en temps et en heure. Bah oui, parce que quand dans certaines régions du monde, certains salariés battent le pavé et font grève pour réclamer des hausses de salaire, eh ben, de ce côté-ci, au Gondwana, il y a des salariés qui ne demandent qu'une chose, que leur salaire soit payé en temps et en heure. Et oui, dans la vie, il y a les uns et les autres. Hausse des salaires, augmentation du SMIC, alignement sur l'inflation sont des slogans et revendications qu'on entend dans les manifestations et grèves des uns. Pour les autres, eh ben, les travailleurs gondouanais, tout ceci, c'est de la science-fiction. Bah oui, comment est-ce que tu vas demander une hausse de salaire alors que ton salaire est calé en l'air comme un satellite en orbite géostationnaire? Soyons raisonnables. Quand, dans certains coins du monde, les travailleurs voient leur salaire dans les notifications de virement sur leur compte en banque, eh ben, les Gondwanais ont le regard scotché dans le rétroviseur. Eh oui, leur salaire est derrière eux, loin derrière, tellement loin derrière qu'il leur est impossible de le voir dans le rétroviseur. Pour voir leur salaire, il faut une rétrospective à la télévision. Tu sais, c'est ça, hein, les arriérés. Ton salaire fait partie de l'histoire. Il y a longtemps qu'on t'a payé, mon ami. Très, très longtemps même. Bah oui, la dernière fois que t'as senti l'odeur de ton salaire, les poules avaient des dents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à peu près plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde de football, et il faut se dire qu'il y a des salariés gondouanais qui ont des arriérés de salaire de 4 ans comme les Coupes du Monde. C'est-à-dire que la dernière fois qu'ils ont touché leur salaire, c'était le 18 décembre 2022, quand Lionel Messi avait soulevé le seul trophée qui lui manquait. Aujourd'hui, ces salariés gondouanais voient le monde entier préparer la prochaine Coupe du Monde qu'ils ne pourront même pas regarder parce qu'ils ont vendu leur télé quand leur salaire n'est toujours pas tombé. 4 ans d'arriérés de salaire, c'est plus qu'une Coupe du Monde de football, c'est les Jeux Olympiques, c'est un mandat présidentiel aux États-Unis d'Amérique. Donc, au lieu de la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, ben le Gondwanais lambda aimerait bien voir instituer une Journée mondiale des salaires qui tombent en temps et en heure. À demain.
Merci Maman et à demain. RFI dans une minute, le journal. On sera au Canada, aux États-Unis, mais aussi au Groenland. Restez avec nous.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Lucie Bouteloup.
Réparer les mots par les mots, c'est le projet de Goma Slam Session. Le collectif gomatracien vient de publier « Slammer pour résister », une anthologie du slam à Goma. Maëline Lelay, chercheuse au CNRS en littérature africaine, sera notre invitée.
Les langues s'expriment de vive voix, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI. Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Vivez sur RFI les demi-finales de la Ligue des Champions. Cédric de Oliveira.
Comme l'an passé, le PSG est dans le dernier carré de la Ligue des Champions et cette fois, après Liverpool et Aston Villa, c'est Arsenal qui est sur sa route. Première manche à l'Emirates où les Gunners avaient été impressionnants face au Real Madrid. Arsenal-PSG, demi-finale aller de la Ligue des Champions, ce sera à vivre ce mardi en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi à 19h, temps universel.